BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
C'est une image qui a choqué tout le monde, celle d'un policier qui tire à bout portant sur le conducteur d'une Mercedes jaune. Cette image date du 27 juin 2023. Ce jour-là, Naël, 17 ans, avait refusé de s'arrêter et entamé une course-poursuite d'une vingtaine de minutes avec deux motards de la police des Hauts-de-Seine. Naël est décédé. Le policier, auteur du tir, est mis en examen pour homicide volontaire. Alors que s'est-il exactement passé? Pour le savoir, une reconstitution est en cours à Nanterre, là où tout s'est exactement déroulé le 27 juin. Que va apporter cette reconstitution? Comment est-elle organisée? On va tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 27 juin avec Elisa Tran.
Il est environ 8h du matin quand, à la sortie du commissariat, deux policiers repèrent une Mercedes de location qui circule dans la voie de bus. Sur leur moto, gyrophares allumés, ils tentent alors de l'intercepter. Mais le conducteur de la voiture accélère brusquement, grille des feux rouges et passe des carrefours à pleine vitesse. L'analyse de la vidéosurveillance révélera plus tard qu'il a failli percuter un cycliste et un piéton. Le véhicule est finalement bloqué par la circulation. À ce moment-là, les policiers descendent de leur moto et s'approchent de la vitre du conducteur. Derrière le volant, Naël, 17 ans. L'un des motards, arme pointée, lui ordonne de couper le moteur. Quelques secondes plus tard, il tire. En garde à vue, il fournira ses explications.
Au cours de ses auditions, le policier a expliqué son geste par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, par la dangerosité du comportement routier du conducteur, induisant chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé ou de voir son collègue, plus avancé dans l'habitacle du véhicule, blessé par le mouvement de cette voiture.
Ce matin du 27 juin 2023 à Nanterre, les deux brigadiers ont été pris à partie par des passants. La vidéo du tir mortel a été diffusée sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, des violences urbaines éclataient un peu partout en France.
Et invité d'affaires suivantes, Damien Merchat, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, ancien commissaire de police. En tant qu'avocat, vous avez notamment défendu des policiers dans les affaires Ziad, Bouna et Théo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que votre regard, à la fois de commissaire et d'avocat, sera particulièrement précieux pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Avant de vous entendre, on va aller sur le terrain, rejoindre l'un des envoyés spéciaux de BFM TV, Maxime Brandstetter. On suit depuis ce matin, 9h, le début de cette reconstitution. On vient de revoir les images avec Elisa Tranin de ce 27 juin. Elle pose évidemment beaucoup de questions. On va décrypter tout ça avec vous, vous qui connaissez parfaitement ce dossier. D'abord, dites-nous, qui participe à cette reconstitution depuis 9h ce matin?
Ben écoutez, d'après nos informations, il y a beaucoup de participants. Il y a évidemment les deux policiers, le policier qui a tiré, Florian M, et le policier qui était avec lui, Julien L. Ces deux policiers qui sont équipés de gilets pare-balles, mais presque tout le monde est équipé de gilets pare-balles, nous disent des témoins, mais les policiers qui sont aussi cagoulés, qui sont là pour rejouer la scène. Il y a aussi les deux passagers de Naël M, parce que Naël M, quand il était dans la voiture et qu'il se fait tirer dessus, il avait aussi deux passagers à l'arrière. Ils sont tous les deux là pour témoigner. Et il y a aussi beaucoup d'autres témoins, car dans ce dossier, on sait qu'il y a beaucoup de témoins de la circulation. Il y a la témoin qui avait pris cette vidéo, qui avait enflammé les réseaux sociaux. Il y avait les passagers des autres voitures à côté. Voilà, tous ces gens qui sont aussi présents, tous en gilets pare-balles, pour pouvoir raconter leur version de l'histoire, raconter ce qu'ils ont vu et pour aider les juges d'instruction à reconstituer la scène et essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé.
Peut-être pour nous éclairer s'il y a ces mesures de sécurité qui sont prises, c'est parce qu'il y a un climat de tension particulier ?
Il n'y a pas forcément de climat de tension particulier à l'heure où on se parle, mais je vous l'ai dit, tout le monde est en gilet pare-balles. C'est bien la preuve qu'ils veulent s'assurer une certaine sécurité. Il y a aussi une volonté que ça se passe à l'abri des regards. Vous savez, il y a le secret de l'instruction. Vous le voyez derrière moi, la place Nelson Mandela de Nanterre, qui est quand même un axe de circulation, eh bien, elle est bloquée depuis ce matin, interdite à la circulation. Nous, les journalistes, on nous tient à l'écart. Il y a des barrières de chantier siglées préfecture de police de Paris qui ont été installées pour que cette reconstitution se déroule le plus possible à l'abri des regards et dans le secret de l'instruction.
Vous restez évidemment avec nous, Maxime. Damien Merchat, on va essayer aujourd'hui de remettre en place une situation qui date d'il y a un an à peu près et apprécier le comportement d'un policier. Comment ça se passe, une reconstitution de ce type-là?
Alors, une reconstitution vise à aligner toutes les versions données par tous les témoins et éventuellement par les personnes mises en examen. Parce que dans ce cas, il y a apparemment quatre témoins, enfin deux mises en cause et deux témoins. Et donc la question pour les magistrats instructeurs, c'est de vérifier que point par point, à la limite seconde par seconde, chaque version est compatible avec les autres. Parce que nous avons tendance à penser que lorsqu'il y a quatre versions identiques, on est près de la vérité. En revanche, lorsqu'il y a des versions extrêmement différentes, il est possible de supposer qu'il y a une version probablement involontairement erronée. Vous savez, la mémoire étant ce qu'elle est, elle est faillible, et effectivement, les souvenirs peuvent, sous le coup de l'émotion, se dégrader, et les versions peuvent ne pas être cohérentes. Et alors, l'intérêt de mettre les versions les unes par rapport aux autres, c'est que lorsqu'on prolonge tous ces témoignages, il apparaît très vite qu'en réalité, il n'y a qu'une seule version qui est cohérente et qui ressemble un petit peu à la vérité.
On parle d'un tiers mortel, maître, donc il y a l'élément humain, les témoignages, vous l'avez dit, c'est quatre personnes qui vont parler. Il y a aussi les éléments techniques. Depuis, sont rentrés dans le dossier d'instruction des éléments qui ont été communiqués par la médecine légale, médecin légiste, par la balistique lésionnelle aussi, oui. Balistique lésionnelle qui consiste à mesurer les distances de tir, la trajectoire de la balle. Il y a une seule balle qui a été tirée, la trajectoire. Le policier dit « je visais vers le bas, donc vers les jambes du conducteur, la balle atteint le conducteur dans un bras » et va se loger dans le torse, hein, traverse le bras, va dans le torse. Donc tout ça, comment est-ce qu'on en tient compte? Le juge a ses éléments techniques avec lui? Les juges ont les éléments techniques? Ce que vous nous dites ne correspond pas à l'angle de tir dans le corps de Naël, hein, pardon pour ces précisions.
Le magistrat ne dira pas, au cours de la reconstitution, à un des mises en examen, ce que vous dites ne correspond pas à la balistique. Normalement, le mise en examen à un avocat, je les connais, talentueux, qui connaissent très bien les affaires de police, qui ont également les expertises et qui ont dû s'entretenir avec leurs clients en leur disant si c'est le cas. Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments, puisque je vous rappelle qu'il y a le secret de l'instruction,
oui, bien sûr.
Paraît-il. Et donc, l'avocat lui a peut-être dit si c'est le cas. Votre version n'est pas corroborée par les expertises. Parce que c'est probablement un des éléments qui est le plus difficile à intégrer, c'est que le magistrat instructeur dispose, lui, de tous les éléments, absolument tous. C'est-à-dire les témoignages des mises en cause, les témoignages des témoins, les expertises balistiques, mais il y en a d'autres. Il y a des expertises psychologiques, psychiatriques, il y a également, ce qui est jamais neutre, les dossiers en l'espèce pour les fonctionnaires de police, à savoir quelle a été leur carrière jusqu'à maintenant. Y a-t-il déjà eu de leur part un usage de l'arme? Y a-t-il eu des problèmes de violence victime ou auteur? Donc il y a tous ces éléments qui font que le magistrat instructeur, à la fin de son instruction, aura une intime conviction et effectivement prendra une décision ou bien de non-lieu, ou bien de renvoi.
Intéressant, parce qu'on comprend qu'il s'agit de faire émerger la vérité et les contradictions qui permettront donc de faire émerger cette vérité. Pour cela, il faut être au plus près des réels. Maxime, il y a une voiture jaune qui a été amenée sur les lieux, c'est-à-dire une voiture similaire à celle que conduisait Naël le 27 juin.
Oui, une voiture jaune qui a été installée pour pouvoir rejouer la scène au mieux. Mais on sait même qu'il y a plus. On a vu deux motards arriver, deux motos de police, sans doute aussi pour rejouer la scène. Il y avait une voiture VTC, un témoin qui était dans un VTC. Eh bien, des témoins nous racontent qu'il y a aussi une voiture qui est là pour jouer le VTC. On nous parle aussi de figurants qui sont là pour jouer les différents personnages. Les policiers sont sûrement dans leur tenue, avec leur casque de moto, pour reproduire exactement le champ de vision. Vous l'avez bien compris, il y a un souci d'exactitude. Le but, c'est de coller au plus près de ce qui s'est passé pour savoir s'il y a des contradictions, si certains ont menti dans leurs auditions.
Maxime, il y a la scène du tir. Il faut rappeler qu'elle est précédée, que ce tir est précédé d'une course-poursuite qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Ça, on ne va pas le rejouer, mais est-ce qu'on va quand même peut-être faire le trajet, regarder ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ?
Alors, on n'a pas plus d'informations sur est-ce qu'ils vont rejouer le trajet ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que de là où on se trouve, on a l'impression que depuis ce matin, la scène est bien fixée à un seul endroit qui est l'endroit du tir. Alors, est-ce qu'après, ils comptent se déplacer et rejouer la différente scène ? On n'a pas forcément cette information, mais vous avez raison de le souligner, parce que cette scène, elle compte aussi, parce que dans les raisons que le policier indique pour justifier son tir, il évoque notamment la conduite dangereuse de Nel M qui aurait failli frôler au moins deux piétons et qu'il aurait eu peur que dans sa poursuite, il renverse à nouveau quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils vont rejouer cette scène ou pas ? On n'a pas cette information pour l'instant à ce moment de la journée.
Maxime, est-ce qu'on sait si la mère de Nel assiste à la reconstitution ?
Oui, on peut vous confirmer qu'elle est effectivement présente. Elle assiste à la reconstitution. Alors, est-ce qu'elle y assiste, j'ai envie de dire, en tant que premier spectateur, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a la zone qui est bouclée et la zone de la reconstitution qui est en fait plus réduite. Une zone qui est d'ailleurs, on ne la voit pas sur les images parce qu'ils nous ont mis à l'écart, mais qui est protégée par des barrières de chantier siglées préfecture de police de Paris. On sait que la mère de Nel est présente dans le dispositif. Est-ce qu'elle est présente vraiment à l'intérieur des barrières, c'est-à-dire au plus près pour voir avec le policier? Ça paraît étonnant au vu de l'impact émotionnel que ça a chez elle, mais elle est sûrement à l'extérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est présente et qu'elle voit plus ou moins ce qui se passe.
Merci beaucoup, Maxime. Vous restez évidemment avec nous. Maître, vous vouliez réagir?
Oui, pour répondre à votre question, à propos de ce qui s'est passé avant, il faut bien, et pour poursuivre sur la question que Dominique posait, il faut bien comprendre que les motards, leurs motos sont GPIC, c'est qu'elles sont balisées, et que dans les 20 minutes précédentes, le parcours des motos a été reconstitué. Oui. Il y a également, comme partout, des caméras vidéo dans toutes les rues, et donc ce qui a précédé la scène elle-même a été, je n'en doute pas une seule seconde, entièrement reconstitué, oui. Si ce n'est avec de la vidéo, au moins avec le marquage des motos de la police nationale.
Ces 20 minutes sont importantes parce qu'elles créent un climat pour ces deux policiers. Et là, je m'adresse à l'avocat que vous êtes, qui avait défendu des policiers, à l'ancien commissaire aussi que vous êtes. Comment fait-on pour apprécier la réaction d'un policier dans une situation complexe ? C'est-à-dire que comment on détermine si il a eu peur, on a le droit d'avoir peur, si il a agi trop vite, s'il a agi trop spontanément, s'il était véritablement en danger, comment on fait ? C'est très dur, parce qu'on apprécie une situation à froid.
Écoutez, il n'y a pas d'autre question que celle que vous venez de poser. Il n'y en a pas d'autre. Comment, pourquoi un fonctionnaire de police, en une seconde et demie, deux secondes, pas plus, comment fait-il pour prendre une décision ? Et surtout, comment fait-il pour prendre la bonne décision et comment fait-il pour ne pas prendre la mauvaise ? Et il y a cette... il n'y a pas d'autre question que ça. C'est-à-dire qu'au moment où il prend la décision de mettre pied à terre et d'aller contrôler le véhicule, effectivement, la décision pour la prendre, il met une seconde ou deux, il met à terre, il sort son arme. Pourquoi à un moment... l'utilise-t-il ? Ça, c'est même pas l'enquête qui va le déterminer. C'est lui qui va s'expliquer si tant est que un mois, trois mois ou un an après, il puisse le faire.
Bon, je l'ai juste une question rapide. Il faut tenir compte quand même de le fonctionnaire de police est un motard qui conduit une énorme, une 1200, une BMW, c'est des motos qui pèsent 250 kilos, hein, avec le plein, qui a poursuivi une voiture pendant 20 minutes, qui a le cœur qui bat, qui a peur de tomber lui, de renverser quelqu'un. Donc, de ça, on n'en tient pas compte, en fait. Mais c'est bien, on tient compte que de cette balle qui est partie. Et des conditions dans lesquelles elle a été tirée.
Mais c'est bien pour ça, d'abord, que policier, c'est un métier extrêmement difficile, que dans des situations de stress comme celle dans laquelle il était, c'est encore plus difficile. Et à la limite, dirais-je, sur une poursuite, il sait à peu près ce qui se passe. Sauf qu'il y a un moment, lorsque tout est arrêté et qu'il s'approche du véhicule, là, il ne contrôle plus rien, il n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Et à mon sens, c'est une spéculation. C'est la raison pour laquelle il en a déduit
que le garçon ou le conducteur était dangereux, et c'est pour ça qu'ils chaussent leurs armes. Parce qu'ils ont des raisons objectives, objectives de penser que la personne qui est en face d'eux est potentiellement dangereuse.
On verra effectivement ce qui ressort de cette reconstitution. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci à Maxime Brandstetter, avec qui on suit évidemment cette reconstitution sur BFM TV.